Bonjour, moi je m'appelle Madame Saltaringe. J'ai été prof de maths pendant 40 ans. J'ai écouté beaucoup ce que vous avez dit, ça m'a intéressée. Mais je voulais savoir si c'est exprès ou pas exprès que vous n'avez pas abordé la question, par exemple pour la soustraction. J'ai constaté chez beaucoup d'enfants que c'était lié, le problème de soustraction était beaucoup plus lié au problème de deuil et de souffrance. Il y a des problèmes que vous avez évoqués ici. Donc, je voudrais savoir si c'est un point de vue que vous avez choisi ou si c'est. Voilà.
Vous m'entendez?
C'est celui-ci. Mets-toi là, mets-toi là.
Vous m'entendez? Oui. Alors, comment est-ce que vous l'avez constaté?
Il suffit d'écouter un peu ce que disent les enfants quand ils n'arrivent pas à faire des soustractions. Je vais vous donner un exemple. Celui-là qui était quand même excessif, hein, qui était vraiment extrême. On m'a confié une jeune dont les parents ne savaient plus trop que faire parce qu'elle avait 12 ans. Et que depuis qu'elle était toute petite, à l'école, elle n'arrivait pas à faire les soustractions, les divisions, les opérations, les problèmes, tout ça, c'était compliqué. Je savais un petit peu l'histoire de la famille. Cette famille, il y a eu cet enfant qui était l'aîné, des jumeaux après elle, et une quatrième enfant. Ce quatrième enfant est décédé quand l'aîné avait 3 ans. Et évidemment, ils étaient quatre, ils sont restés trois. Elle savait faire tout ce que je lui demandais, sauf si le résultat était trois. Deux plus un, elle ne pouvait pas faire. 5385 moins 2700, savait faire. Trois, impossible. Donc, évidemment, ce que j'ai fait, j'ai envoyé la maman consulter M. Ginesh. Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un psychologue ici de l'université, qui a permis de débloquer la situation. Et après, il a fallu reconstruire. Mais le problème, on pouvait lui poser les problèmes dans n'importe quel sens, avec n'importe quel mot. C'était juste, ma sœur est morte et j'avais 3 ans. Et quand je lui ai mis les mots, j'ai mis les mots soustraire, diviser. J'ai dit, maintenant, t'écris tout ce que tu veux. Elle m'a écrit, tuer, mourir. Et c'est un exemple extrême. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, il se trouve que j'ai fait après un DEA là-dessus, sur les liens entre la psycho, l'inconscient et les difficultés en maths. Mais justement, je voulais savoir si vous choisissez de ne pas parler, de ne pas aborder ce côté-là, ou si c'est. Voilà.
Je pense que le terrain que vous soulevez, c'est un terrain extrêmement glissant dans lequel, justement, je parlais des aspects interprétatifs. Et il me semble qu'il y a certains moments où les interprétations ont tellement de degrés de liberté que ça devient difficile de savoir comment est-ce qu'elles sont fondées. Et c'est vrai que ce que vous relatez enfin, d'un certain point de vue interpellant, mais d'un autre point de vue, on peut aussi s'interroger sur les phénomènes de causalité que vous semblez voir, sur le caractère systématique de l'observation que vous faites. Et c'est vrai que je pense que le cadre sur lequel vous appuyez laisse la possibilité d'une telle variété d'interprétation que je le pense assez peu fécond du point de vue de l'enseignement et de ce en quoi il va nous renseigner sur les conceptions. Oui, je n'ai pas tellement d'autres choses à ajouter à votre question.
Merci.
Yves Matheron, didactique des mathématiques à l'Institut français de l'éducation. Je voudrais reprendre la question d'André, parce que je ne sais pas si on l'avait abordée la dernière fois qu'on s'était vu en 2012, mais elle me semble intéressante. Est-ce qu'on peut enseigner l'analogie? Bon, enseigner, c'est, bon, on connaît l'étymologie, c'est faire signe, donc c'est montrer. Est-ce qu'on peut montrer l'analogie? Est-ce qu'il y a des chances que, on puisse enseigner l'analogie de cette manière-là? Alors, en didactique des mathématiques, et donc ce qu'on fait à l'Institut français d'éducation, c'est... on fait beaucoup de choses, bien entendu, mais c'est aussi créer des ingénieries didactiques. Et donc, à l'intérieur des ingénieries didactiques, ce que l'on recherche, c'est, depuis l'origine de la didactique des mathématiques, c'est recréer une genèse artificielle des notions mathématiques que l'on va devoir faire connaître aux élèves de manière à ce qu'ils les apprennent. Et donc, si on fait une analogie, pour le coup, on essaye de placer les élèves en situation de producteurs de mathématiques, donc de petits mathématiciens, et d'où l'idée de genèse artificielle, puisque, évidemment, les mathématiques ont été créées ailleurs, dans d'autres lieux et d'autres temps que dans la salle de classe. Mais on va essayer de placer les élèves en tant que producteurs de mathématiques. Or, si on regarde l'histoire des mathématiques, on voit que certaines productions de mathématiques proviennent d'analogies faites par des mathématiciens à certaines époques. Et ces analogies, elles s'appuient sur des connaissances disponibles dans la communauté des mathématiciens à cette époque. Et alors, c'est vrai aussi dans d'autres domaines, la relativité en physique, etc. Autrement dit, s'il n'y a pas une communauté, s'il n'y a pas un milieu de connaissances partagées, est-ce que l'analogie a des chances d'exister? Alors évidemment, ça se traduit toujours par des grands mathématiciens. Newton avait vu, par exemple, dans ses développements en série, l'analogie avec les opérations sur les entiers naturels pour développer en série toutes sortes de polynômes, etc. De choses sur les polynômes. Donc il y avait une analogie. Et il disait, personne ne l'a vu, sauf peut-être Mercator, etc. Et ce que vous disiez tout à l'heure, l'analogie n'a pas de validité logique ou scientifique, etc. Il y a un domaine de validité, c'est que ça marche chez Newton. Même si les connaissances mathématiques qui sont derrière, celles d'espace vectoriel et de base, elles vont arriver beaucoup plus tard, au cours du 19e siècle. Donc il y a sans doute un certain domaine de validité. Alors moi, la question que je pose, pour ne pas être trop long, c'est la suivante. Plutôt que de regarder un apprentissage ou un enseignement qui se centrerait sur l'individu individuel, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans les classes, par exemple, disposer un milieu dans la classe fait d'objets matériels et de connaissances antérieures, donc ils font appel à la mémoire, qui permettrait d'énoncer qu'il y a une certaine probabilité qu'au moins chez une personne faisant partie de cette communauté-là, il y ait possibilité d'analogie de manière à ce qu'il y ait créativité ou création de connaissances nouvelles dans cette classe qui ensuite vont être partagées, puisque dans le domaine scientifique, ça marche à peu près comme ça. Donc, renoncer à regarder l'individu et regarder plutôt le collectif pour l'analogie.
Peut-être deux points. Le premier, sur la question de la validité, bien entendu, je n'avais aucunement l'idée de dire que les analogies sont intrinsèquement non valides. Ce que je disais simplement, c'est que le processus analogique ne garantit pas la validité logique. Alors, bien entendu, on est les premiers à défendre que dans les progrès scientifiques, l'analogie est au cœur et que bien souvent, l'analogie est, sans doute systématiquement, elle est perçue avant la preuve. D'accord. Donc, la question de la validité logique, elle est quand même centrale, mais en tout cas, ça ne remet pas du tout en cause les vertus de l'analogie pour... dans la découverte. Le second aspect, alors, je ne suis pas sûr qu'en fait, par votre proposition, vraiment vous, enfin, il me semble que votre proposition, elle fait intervenir à la fois le collectif et l'individuel. Et la question, c'est plus de, d'envisager des environnements favorables pour l'émergence d'analogies fécondes. Et il me semble que votre idée est tout à fait intéressante, tout comme actuellement, justement, dans la littérature sur l'innovation, la créativité, ben c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, le fait de constituer des communautés qui ont qui peuvent soit correspondre à des communautés de pratique, soit des champs culturels assez partagés, dans lesquels on va chercher à faire émerger par le groupe. Et que ça a une pertinence à l'école me paraît assez clair également. C'est aussi, il me semble, assez en cohérence avec justement l'idée des perspectives, c'est-à-dire qu'il y a certaines perspectives sur la situation qu'on va chercher à construire, à favoriser, à susciter. Et le fait qu'il y ait un groupe qui soit mis en situation de que ça puisse émerger au sein d'un groupe par effectivement aussi quelque chose de favorable.
Oui, je voudrais intervenir sur deux points. Le premier, c'est le... Ah, pardon, je ne sais plus. Marc Rogalski, mathématicien et didacticien. Je voudrais intervenir d'abord sur un premier point. Moi, j'étais très frappé par le fait que, très souvent, Emmanuel, quand tu prononçais analogie, j'avais envie d'entendre conception ou champ conceptuel, et que j'avais du mal à voir en quoi c'était différent et est-ce que ça l'était. Par exemple, tout ce que tu nous as raconté sur la division, la soustraction, l'addition... ça a été largement décrypté par Vergniaud en son temps, et ça n'a pas amené à utiliser la notion d'analogie, mais plutôt la notion de champ conceptuel, qui était quand même une assez bonne explication de ce qu'il voyait. Donc là, j'ai une petite difficulté de compréhension vraiment ce qui différencie ces deux thèmes. Et j'ai une deuxième question, plutôt un petit bout de réponse par rapport à André Tricot, sur une sous-question de peut-on enseigner à produire des analogies, qui était, pour résoudre un problème, penser à des problèmes similaires et raisonner par analogie, est-ce qu'on peut enseigner ça ? C'est un problème qui a beaucoup intéressé les mathématiciens. Il y a Polya qui a écrit plusieurs livres sur la question, et en fait on a constaté que ça ne marchait pas. C'est-à-dire, des gens ont essayé de mettre en œuvre les conceptions de Polya sur ce rôle de l'analogie dans la résolution de problèmes, et bon, je pense en particulier à Schoenfeld, mais j'en parlerai demain, et ça ne suffit pas parce que c'est beaucoup trop vague. C'est-à-dire que quand on veut résoudre un problème, surtout les problèmes un petit peu genre Olympiade. On a éventuellement un problème analogue, mais la nature de l'analogie peut dépendre complètement du champ précis dans lequel on va être des mathématiques. Et donc, en fait, il faut remplacer l'apprentissage de l'analogie par plutôt un apprentissage de méthodes propres à certains domaines très particuliers. Mais je dirai plus demain là-dessus.
Ok, alors donc sur le premier point, Marc, en fait, il y a une affinité dans les idées. En même temps, je pense que ça apporte quand même beaucoup d'introduire justement la notion d'analogie et surtout de faire le lien avec la catégorisation. Alors, je pensais en parler peut-être un peu plus demain, une fois que tu seras intervenu, mais il me semble que lorsqu'on voit le lien entre analogie et catégorisation, eh bien, par exemple, la notion de diviser, c'est partager, puisque tu as pris cet exemple, eh bien, ça permet de regarder qu'est-ce que c'est d'un point de vue des catégories mentales, la catégorie du partage. Et la catégorie du partage est loin d'être une catégorie uniforme, c'est une catégorie avec des prototypes, c'est une catégorie avec une graduation d'appartenance, c'est une catégorie où il y a même des membres indécis, où il y a tout un continuum, et ça permet donc de faire le lien entre, en gros, la psychologie des concepts et puis la question des représentations initiales. Et Gérard Vergniaud n'est pas rentré vraiment dans cette question, justement parce que tout l'aspect, on va dire, psychologie des concepts, telle qu'elle est étudiée par en psychologie du développement, en psychologie du développement cognitif, apparaissait comme un peu dissociée, alors que l'analogie est justement une façon de fournir une approche du développement conceptuel qui fait le lien entre ces connaissances initiales, ces représentations initiales, et puis à la fois les catégories quotidiennes et puis des processus développementaux qui conduisent à une évolution des conceptions sur ces notions. Alors, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que je comptais développer un peu plus demain, mais bon, ça c'est une entrée dans la réponse. Et ensuite, sur le second point, je te rejoins dans le sens où probablement quelque chose qui serait de l'ordre de méthode très générale pour chercher des analogies, ça me paraît potentiellement fécond, et les travaux que l'on mène, à l'inverse, sont plutôt orientés vers le fait de susciter des analogies potentiellement féconde, c'est-à-dire que ça, c'est même pas le. Enfin, je pense que je te rejoins assez quand tu parles de méthode, mais c'est vraiment l'idée de. Quand on parle de recodage sémantique, c'est plutôt l'idée qu'on sait qu'il y a un autre domaine où un point de vue utile pour l'élève est déjà acquis pour lui, c'est-à-dire que ça pourrait être fructueux pour lui, et on va l'aider à voir différemment la situation. Et donc, c'est effectivement en allant plutôt dans une démarche assez spécifique, en lui permettant de bénéficier de connaissances qui sont dans d'autres domaines. C'est pour ça que la question de l'évocation est vraiment importante, parce que même si, comme tu l'as dit, le problème analogue, on sait le résoudre dans un autre contexte. En fait, ça ne donne rien à la solution. C'est pas parce que on sait résoudre dans un autre contexte que le transfert est immédiat. Sinon, on aurait résolu beaucoup de problèmes d'éducation.
Vanda Kaminski, didactique de la physique. Alors, c'est juste ponctuel, mais par rapport à ce que vous avez raconté sur l'ombre. Il y a des analogies qui, sur le terrain plus ou moins poétique, vont très bien, mais qui, en physique, peuvent renforcer les difficultés déjà existantes. Et l'analogie avec la neige, elle est très caractéristique pour renforcer une des difficultés qui est matérialisation du concept de la lumière, du concept de la lumière sur le terrain des physiques classiques, donc pour l'enseignement au collège ou au lycée, où justement la difficulté est de représenter la lumière comme un objet physique de nature différente que de la neige. Et d'autre part, là encore, de petites choses, c'est plutôt vocabulaire que les analogies. Quand on dit que l'obstacle arrête la lumière arrêtée en physique, ça n'a pas de sens. Soit ça bouge avec sa vitesse de lumière que tout le monde connaît, soit ça n'existe pas, ça se transforme en autre chose.
Ça confirme que les analogies naïves sont robustes.
S'il y a quelqu'un qui... Moi, j'avais justement une remarque à faire vraiment là-dessus. Le point de vue que j'ai sur les exemples que tu utilises, et c'est intéressant que quand on te propose, par exemple, de travailler sur une notion, tu commences par donner un exemple, une situation, une anecdote. Moi, je suis très intéressé par ça. Ce que je suis frappé, là, on l'a vu, dans le recodage sémantique, je voulais poser le lien, ce que je connais un peu dans ce domaine-là qui m'avait intéressé à une époque, c'est la question de registre sémiotique, etc. Et l'idée que une partie de l'activité qui était enseignée, c'était des pratiques, on le voit assez bien, de passage de la langue naturelle à des schématisations à des écritures mathématiques utilisant une symbolique, etc., qui ont circulé autour de ça, et que c'était ces opérations-là, en sachant qu'on pouvait... ce que sait l'élève, c'est qu'il sait qu'il doit faire à peu près ce genre de choses. Moi, je suis à ce niveau-là en mathématiques, mais en plus, je sais que c'est un peu compliqué. Il faut que je le fasse de plusieurs façons. Il faut que je tourne le problème de plusieurs façons pour arriver à contrôler un petit peu mon raisonnement et arriver à la conclusion. C'est ces deux niveaux de connaissance. Et comment tu fais le lien, toi, avec la notion de registre sémiotique et avec ces opérations qui me semblent évoquer ce que j'avais cru comprendre lorsque tu parlais de recodage sémantique? Peut-être que tu le penses au niveau d'opérations internes, qui est un recodage sémantique dans la mémoire, enfin, qui serait plutôt dans le domaine cognitif, mais il me semble qu'il y a une dimension extérieure de ça, dans la production de signes, dans la manipulation de signes, qui me semble faire partie d'une des dimensions du problème.
Et tu pourrais préciser un peu
parce que, ben, quand on évoque, par exemple, on voit bien que tu as montré, toi, tu montres des textes de problèmes. Tu dis, par exemple, pour comprendre ou pour avancer un peu dans la réflexion, j'efface, je rature un certain nombre, je change le texte, je propose des écritures, je propose aussi, dans la manière de figurer le problème, des schématisations graphiques. Et ce que les élèves apprennent, me semble-t-il, ou ce qui est en jeu dans l'enseignement des mathématiques, vu de mon point de vue, qui est plutôt celui de quelqu'un qui s'intéresse à la place des langages, des opérations langagières dans les apprentissages, c'est qu'on apprend aux élèves à utiliser le papier et le crayon. Alors, est-ce que c'est légitime? J'en sais rien. Mais il me semble que c'est un enjeu vu du regard d'un ethnologue qui apparaît dans les situations que tu représentes. Il me semble que ça avait été théorisé en partie par la notion de registre sémiotique, mais je le propose en naïf. Donc je vous prie de m'excuser si je dis une bêtise. Si ça vous amuse, tant mieux, quoi.
Voilà. Je pense pas que ça soit du tout une bêtise, mais c'est juste que peut-être que... Enfin, ce que j'ai peut-être pas assez mis en avant, c'est que l'idée essentielle, c'est de favoriser un changement de point de vue. C'est-à-dire de prendre une situation qui, au départ, est vue par l'élève sous un certain angle, qui est sa catégorisation la plus immédiate, et de faire travailler ce point de vue pour que le nouveau point de vue ait une pertinence plus grande du point de vue des notions disciplinaires. Et c'est avant tout un travail sémantique, c'est-à-dire que c'est un travail d'exploration sémantique du contenu de l'énoncé. Je pense que les exemples que j'ai pris le montraient assez, c'est-à-dire qu'on se dit qu'en le percevant différemment, eh bien, ce qui au départ semblait mener à une impasse... devient suffisamment évident pour que la solution, cette dérive, soit par l'application d'un algorithme, mais cette fois un algorithme qui est rattaché à une certaine sémantique, soit que ça paraisse tout à fait immédiat par exemple par une opération d'addition.
Les recodages sémantiques, ce sont des opérations
de réinterprétation.
Mais qui se passe dans la tête, c'est ça qui... Voilà, c'est la question que je voulais poser, ou qui est instrumentée par des signes extérieurs. C'est presque une question de méthode.
Je dirais que c'est instrumenté par l'instrumentation classique de la classe. C'est pas, c'est-à-dire que l'aspect instrumental n'est pas au cœur de la façon dont on le travaille.
D'accord.
Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas attention.
Mon nom est André Tiberghien. Je ne vais pas discuter sur l'aspect théorique de l'analogie. Je voudrais juste réagir à ce que vient de dire Wanda, parce que je trouve que c'est compliqué en physique. Une analogie a toujours ses limites. Alors je pense, par exemple, l'argument que tu viens de donner, certes que la lumière, une fois qu'elle est, elle est absorbée, transmise, enfin bon, bref, il n'y a plus de lumière après, mais en revanche, quand je prends les gamins tout petits, enfin tout petits, disons 7, 8 ans, 9 ans peut-être, c'est une partie de ces élèves n'a pas conscience de l'existence de quelque chose entre la source et l'effet. C'est-à-dire, pour eux, la lumière, c'est la source, ou c'est la lumière, c'est l'effet. Et entre les deux, il n'y a rien. Bon, ils ne le pensent pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais ils ne pensent pas. Et du coup, l'analogie avec la neige pourrait les aider à dire qu'il y a quelque chose.
Tu la vois, la neige, entre les nuages et terre.
Oui, sauf que justement, ils ne voient pas la lumière, et du coup, ils ne parlent jamais de ce qui se passe entre la source et l'effet. Pour eux, là, le mot lumière va être associé à la source et associé à l'effet. Ils ne vont pas penser à un mécanisme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une analogie a toujours ses limites. Et pour moi, je n'ai pas de réponse si c'est bien ou mal pour essayer d'aider les élèves à apprendre. Il y en a peut-être que ça peut aider, il y en a peut-être que ça ne peut pas aider. Il y a peut-être des moyens où il faut discuter de la limite de l'analogie en disant « là, ça vous aide à penser ». Mais là, du coup, il faut faire de la métacognition d'une certaine manière. En tout cas, voilà. Et je pense que si on n'en fait pas, je ne sais pas si c'est la métacognition, mais en tout cas, la réflexion sur les limites de... sur le fonctionnement de son propre raisonnement, eh bien, voilà. Je n'ai pas de réponse, mais il me semble que ça nécessite aussi ça.
Je suis totalement d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que lorsqu'on se pose la question des domaines de validité, c'est même important d'aller au-delà, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'apporte cette analogie, peut-être que de savoir en quoi elle est potentiellement limitante, mais ça c'est aussi quelque chose qui peut se travailler, et qu'il puisse y avoir des effets différentiels, effectivement, parce que ça soit... selon le moment des apprentissages pour les élèves. Enfin, il me semble effectivement que c'est toujours un peu risqué, ne fût-ce que de prendre une position de l'ordre positive ou négative sur telle et telle analogie, parce que la question, c'est plus le constat de qu'est-ce qu'elle produit, c'est-à-dire elle est présente, qu'est-ce qu'elle produit et qu'est-ce qu'on en fait.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce que tu disais concernant les problèmes, parce que en fait, la question que je me pose, c'est, en fait c'est pas une vraie question, c'est peut-on considérer les problèmes indépendamment de l'apprentissage de l'objet mathématique qui n'est pas le problème, qui est en fait le calcul et son utilisation dans des contextes extrêmement variés, donc et les travaux qui ont été menés depuis des dizaines d'années montrent qu'il y a à la fois des champs de problèmes, qu'il y a en même temps des procédures de calcul, qu'il y a en même temps des connaissances mémorisées. Et repérer les relations, les difficultés qu'il y a relativement à tel ou tel énoncé liées à une analogie avec des connaissances initiales ou... quelquefois des mauvais choix d'introduction de problèmes est une chose, mais la question que je me pose, c'est quel discours peut-on tenir vis-à-vis des enseignants? Parce que, en fait, pour moi, il est intéressant de leur montrer l'étendue des éléments en jeu dans cet apprentissage, de leur donner des outils d'analyse auxquels faisait par exemple référence Yves tout à l'heure, ou Marc en parlant des travaux de Gérard Vergniaud, mais d'autres travaux aussi. Et je vois un risque qui existe trop souvent, qui consiste à pointer une difficulté, comme celle par exemple de l'inaptitude à la résolution de tel ou tel type de problème, pour justifier un choix d'enseignement auprès des enseignants du primaire, qui ne sont pas des spécialistes, et qui n'ont pas l'ensemble des données que nous pouvons avoir pour analyser cette catégorie. Donc si je me résume, dans les difficultés que tu évoquais, qui ont permis de développer des éléments d'analyse Tu es essentiellement du côté des énoncés du problème plus que de l'apprentissage du calcul d'une façon générale. Et ma deuxième question, c'est, qui est complètement différente, c'est pour des enseignants, ne prend-on pas un risque à trop simplifier, qui dans certains cas, ce n'est pas une simplification, c'est un argument pour défendre telle ou telle proposition d'enseignement. Ce qui n'est pas ce que tu dis, bien sûr. Mmh. Oui.
Alors, ta première question, c'était de...
Ma première question, c'est en fait l'articulation dans l'apprentissage entre problème et calcul. Ta formulation donne une priorité évidente à la compréhension des énoncés de par le sujet que tu as abordé, mais par exemple sur des problèmes soustractifs, il est évident que les connaissances en calcul entre un élève qui est incapable de décompter, par exemple sur le problème d'enlever 27, je ne me souviens plus du nombre exact, ou un élève qui a un an ou deux ans après, qui maîtrise des résultats mémorisés, la difficulté va se poser dans des termes complètement différents. Je ne dis pas que la question est les problèmes sont-ils au service du calcul, mais plutôt l'apprentissage à la résolution des problèmes additifs ou dans la notion. D'autre côté, des problèmes multiplicatifs et divisifs, peut-il être traité indépendamment de la maîtrise des procédures de calcul, qui est un objet d'apprentissage?
D'accord. Alors, donc c'est vrai qu'on se place plus sur les notions que sur des aspects procéduraux. Ça, c'est très net. En même temps, ta question me... porte à évoquer le projet Arithmécole dans lequel Gérard Sansevie, Bruno Villette et Jean-Paul Fischer ont travaillé ensemble sur justement une progression complète pour le CP et pour le CE1 qui recouvre l'ensemble du programme en mathématiques géométrie exclue. Et donc la question de l'articulation, je dirais, elle est réalisée au sens où... actuellement, il y a à peu près 200 classes en France qui travaillent sur de cette manière. Mais effectivement, tout n'est pas recodage sémantique et il ne s'agit pas de, d'avoir un impérialisme du recodage sémantique. Mais par contre, le fait qu'il ait une pertinence en étant intégré en prenant en compte différents aspects, ça me semble... En tout cas réalisé d'une certaine manière parce que la progression existe de façon complète sur le CP et le CE1. Et ensuite, ta seconde question, il me semble qu'elle est très large au sens où... je vois pas trop quelle est l'alternative parce que... Est-ce que ça veut sous-entendre que... L'idée, bien entendu, c'est de former les enseignants de la manière la plus honnête possible avec l'ensemble des éléments de connaissance. Et donc, je pense que les aspects que je souligne sont des aspects importants qui doivent être intégrés à une formation d'enseignant. Je pense qu'ils sont même très importants. Maintenant, ça n'a pas de vocation exclusive.
Laurent Vivier, didactique des maths à Paris 7. Merci Emmanuel pour ta présentation tout à l'heure. J'ai trouvé qu'il y avait des choses, mais peut-être que c'était moi qui étais passé à côté dans le livre, sur le cadre AS3. Il me semble qu'il est beaucoup plus visible, en tout cas dans ce que tu as présenté là, que dans le livre, même si on retrouve les exemples qui sont dans le livre. Moi, j'avais des questions sur le recodage sémantique, sur le fait de relier des situations, de ne pas se focaliser en fait, sur un seul type de situation. Et parce qu'en fait, il y a toujours le rôle de la première situation qu'on rencontre. Et dans l'enseignement, elle n'est pas choisie n'importe comment. C'est, par exemple, pour travailler les situations sur les soustractions, on ne va pas directement travailler des situations qui sont plus complexes. On va essayer de trouver des situations qui sont relativement simples pour se focaliser sur l'essentiel, qui est l'apprentissage d'une nouvelle opération. Et donc, en particulier, les histoires de pertes, j'ai 8 billes, j'en perds 5, combien j'en ai, ça peut paraître raisonnable de commencer comme ça un enseignement. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est raisonnable. Et du coup, le rôle de la première situation, d'une certaine manière, détermine et va avoir un avenir peut-être plus fort que les autres, plus importante, et qu'effectivement, il va falloir à un moment donné... ajouter des situations pour donner plus de sens à l'opération qu'on est en train de travailler, comme là par exemple la soustraction. Et puis après il y a aussi des analogies naïves hein, qui est que par exemple soustraire diminue, mais ça je ne vois pas trop comment on pourrait faire pour éviter que soustraire diminue quand on commence un apprentissage, parce qu'on ne va pas commencer directement avec les nombres relatifs, ça ne me semble pas raisonnable. C'est la même chose avec diviser, diminuer. Parce qu'à chaque fois, en fait, pour pouvoir dépasser cette analogie, il va falloir, on ajoute de nouveaux nombres, donc de nouveaux concepts, et c'est cette construction mathématique-là qui va permettre de réorganiser les connaissances, je dis comme ça parce que je ne sais pas comment le dire avec l'analogie, donc de réorganiser les connaissances pour incorporer dans les nouveaux objets qui arrivent, donc les nombres décimaux, par exemple pour diviser augmente, pour la soustraction les nombres relatifs, puis après ça sera par exemple donner du sens à la soustraction de deux points en géométrie affine par exemple. Et cette dimension-là, dans ta présentation, mais aussi dans le livre, hein, elle me manque en tant que didacticien des mathématiques. Donc je ne sais pas si tu as des éléments à apporter précisément sur ce point.
Oui, alors moi je vois deux points. Le premier, c'est... Alors, bien sûr, la première situation va avoir beaucoup d'importance. Il faut aussi prendre en compte... tout à l'heure, on a parlé du milieu social au sens général, aussi le langage. Si tu prends le mot soustraire et que tu regardes un dictionnaire, ben, tu verras que soustraire, en fait, dans le sens commun, c'est enlever. Si tu prends le mot diviser, que tu regardes un dictionnaire, tu verras que c'est séparer en partie. Et que de ce fait, il y a de toute façon cet aspect qui est le sens dans la langue. Et que si, par exemple, on n'utilisait pas en français le mot « diviser », mais on utilisait, par exemple, on parlait de « mesurage », je suis persuadé que les analogies naïves ne seraient pas les mêmes. D'accord ? Donc, c'est pas simplement une question de choix de situation. Le choix de situation va bien sûr être important, mais ça va être en interférence avec tout un ensemble... de connaissances qui sont issues des connaissances de l'élève hors les murs, de ses expériences, de ses connaissances de la langue, etc. Donc on ne peut pas le résumer au choix des situations avec lesquelles on introduit les notions. Je pense que tu es d'accord. Oui. Et ensuite, par exemple pour la soustraction, nous, le point de vue qu'on a pris dans la progression arithmécole, c'est de l'introduire plutôt par la comparaison. Parce qu'on trouve que la comparaison, c'est plus intéressant pour justement montrer, mettre l'accent sur l'idée d'écart, qui est sans doute plus large que celle de retrait, qui permet d'interpréter plus de situations de soustraction, et qui justement est plus neutre par rapport à la question de... retirer ou ajouter, parce qu'on peut avoir 3 de moins, 3 de plus, et donc et dans ce cas-là, l'écart, c'est 3. Et de la même manière, pour la division, on met l'accent sur la notion de rapport. Et quand tu dis que par exemple, les 12 pommes et les 4 oranges de tout à l'heure, elles sont dans un rapport de 3. On ne rentre pas dans le partage lorsqu'on met l'accent sur le rapport. Et de ce fait, le fait que diviser doive rendre plus grand ou plus petit, ce n'est pas tellement important. L'idée, c'est justement que les élèves, assez tôt, acceptent le fait qu'une division ne rend pas forcément plus petit. Donc je crois que ce type d'analyse sur les notions et sur ce qu'on veut aider l'élève à développer permet de tout de même assez tôt avoir une réelle intervention sur les conceptions. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un ordre aussi hiérarchisé que tu sembles le sous-entendre du fait de la progression scolaire. On peut très bien rentrer dans justement une soustraction qui ne fait pas rendre plus petit, dans une division qui ne fait pas rendre plus petit non plus, en introduisant les notions de manière adaptée. Alors ça, évidemment, ça ne résout pas tout, hein, mais je pense que la contrainte n'est peut-être pas aussi forte que la façon dont tu le décris.
Oui, mais c'était aussi sur les objets en jeu, parce qu'en fait, bon, quand on commence la soustraction, on n'a que les nombres entiers à disposition, antinaturels. Oui. Et donc, quand on fait une soustraction, forcément, le résultat est plus petit que ce qu'on avait au début. Voilà. Et ça, même que ce soit dit ou pas dit, ça se voit. Et c'est pareil avec la division. C'était ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. Et c'est quand on aura des nouveaux objets qu'on pourra se séparer de cette chose-là.
Oui, mais lorsqu'on a un cadre interprétatif qui ne le contraint pas, ça potentiellement, ça laisse plus de liberté par la suite quand on va arriver au nombre décimaux, parce que du coup, il n'y aura plus de contradiction avec le fait que... C'est ça l'idée.
Sur ce point précis, je pense qu'il y a Marie-Jeanne Perrin, didactique des mathématiques. Oui, je disais que prendre en situation d'introduction des situations qui ne sont pas les plus naturelles. Ça a déjà été utilisé dans différents cas, et il y a un danger à cela. Plusieurs, mais je vais dire seulement une chose. C'est aussi l'interprétation qu'en font les enseignants quand la situation d'introduction n'est pas en accord avec le langage. Je vais prendre un exemple, l'introduction des fractions. L'introduction des fractions, l'introduction habituelle, enfin la plus courante, est dans des situations de partage, et le langage est en accord avec les situations de partage. Dans la progression qu'avait proposée Briciot dans ses manuels, il prenait le contre-pied, puisque justement à cause de la difficulté de passer à d'autres interprétations entre le partage et la cotition, de prendre d'abord les situations où on va, comme il dit, partager la totalité et introduire la fraction comme division d'abord. Et la difficulté, moi j'ai assisté, il se trouve, à une séance en classe, et quand les enseignants n'ont pas bien compris ces différentes conceptions et les différents points de vue, et que dans la situation, ils utilisent le langage qui correspond au partage, alors qu'on n'est pas dans cette situation-là, ça peut donner des choses très... des choses qui ne fonctionnent pas tellement du point de vue des élèves. Donc, je pense qu'on peut... Enfin, on ne peut pas aborder ces questions uniquement de ce point de vue-là. Il faut prendre en compte aussi les pratiques des enseignants sur ces questions.
Oui, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le projet Arythme École, c'est un projet dans lequel l'accompagnement des enseignants est permanent. À la fois au niveau éducation nationale, et avec des conseillers pédagogiques qui vont dans les classes de façon systématique, le groupe de... Les différents chercheurs sont mobilisés en permanence également. Il y a des forums et sans l'aspect formation des enseignants, c'est effectivement le fait même d'avoir conscience de ces conceptions initiales, justement, qui sont robustes et qui influencent y compris les adultes. C'est un travail aussi très intéressant auprès des enseignants. Qu'ils eux-mêmes prennent conscience de l'influence de ces analogies naïves pour eux-mêmes, parce que le fait que ça soit quelque chose de partagé et quelque chose de qui est en fait un processus quasiment irrépressible, c'est aussi une manière de les déculpabiliser, parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué qui était assez frappant, c'est que souvent les enseignants au premier degré ont l'impression que les mathématiques, c'est pas leur truc, qu'ils ont fait aussi le choix d'être professeur des écoles, mais sans considérer que en n'ayant pas eu forcément une grande réussite en mathématiques. Et l'idée qu'il s'agit d'un développement conceptuel, c'est une idée qui aussi permet de leur donner un point de vue plus global qui généralement favorise l'investissement dans l'enseignement des mathématiques, et les résultats qu'on a des enquêtes qu'on a menées auprès d'eux dans le cadre de ce projet sont très favorables de ce point de vue. Mais en tout cas, l'aspect accompagnement est essentiel, et je comprends très bien votre réaction.
Oui, c'était dans le prolongement de tout ce que vous venez de dire. Olivier Rey, Institut français de l'éducation. Je ne suis pas mathématicien et encore moins didacticien des mathématiques. Donc je vais en parler de façon très naïve, justement. Mais ce qui semble essentiel dans la lignée de la prolongement juste des deux dernières interventions, c'est effectivement qu'il y a un écart très grand dans les connaissances scolaires entre la dimension symbolique, la dimension contingente, voire même arbitraire pour les élèves des savoirs qu'on essaye de transmettre, de faire apprendre, et les connaissances courantes. Et la difficulté dans l'aspect formation des enseignants, c'est, je pense, réellement de passer d'une conception primaire de l'analogie, et qui est tout à fait légitime, qui est une conception comme l'analogie comme facilitateur d'accès à des connaissances, à des savoirs, à une conception où l'analogie aussi est porteuse, peut-être parfois, de brouillage, d'altération, d'obstacles, de complications. Mais ça, c'est souvent lié, je pense, à une sous-estimation de l'arbitraire des savoirs qu'il y a à l'école en général, y compris les savoirs les plus élémentaires. Quand je dis de l'arbitraire, c'est au sens de leur caractère éminemment symbolique et qui n'est pas du tout distribué de façon équitable par rapport à tous les élèves, par rapport au milieu, par rapport à le fait que tout ça est très spécifique à des domaines de connaissances, à des champs disciplinaires, à des façons de voir et de découper le monde, etc. Et que ce n'est pas du tout quelque chose qui est acquis, etc. Donc par rapport à tout ce qui a été dit, je crois, c'est d'insister sur le fait que les enseignants sont rarement conscients, ou du moins ne mesurent pas assez peut-être la portée de l'écart, du décalage qu'il y a justement entre ce qui avait été appelé un peu parfois comme des conceptions communes de base, et le pas qu'il y a pour aller à ce langage symbolique, qui, bon, là, on parle beaucoup des mathématiques, mais on pourrait parler de la physique, on pourrait parler du langage du français, d'une langue étrangère, etc. Je crois que c'est ça qui est très important à souligner, qui est intéressant dans le travail que vous avez fait sur l'analogie, parce que vous montrez en même temps le côté facilitateur de faire des ponts entre un certain nombre de choses, mais en même temps les obstacles et le brouillage que cela peut introduire. Et c'est pour ça que c'est pas simplement une problématique, comme vous l'avez dit, en termes d'accompagnement des enseignants, mais réellement de leur faire prendre conscience de quelque chose qui, je crois, est largement inconscient. Pour la plupart des gens qui deviennent enseignants aujourd'hui, c'est ce décalage, ce saut énorme qu'il y a à faire dans le vécu de chaque élève, quel que soit son niveau, pour aller vers le symbolique. Et souvent, avec souvent la meilleure intention qui est de dire il ne faut pas trop souligner cet écart entre le langage de l'école pour parler vite et le langage le langage commun, parce que ça va faire peur. Ça va inhiber quelque part la volonté d'apprentissage chez l'élève. Et au contraire, je crois qu'on a intérêt, y compris en le présentant comme quelque chose de ludique, etc., de montrer quelle est la spécificité de l'accès au savoir, la connaissance disciplinaire qu'on va essayer de montrer chez l'élève très tôt, pour qu'ils comprennent bien que là, il y a, de ce point de vue-là, un fossé, un gap, un effort à faire, qui peut être aussi très ludique, très, très, très satisfaisant, très réconfortant pour l'élève, et surtout pas lui faire croire qu'on va lui donner des connaissances par contrebande en restant au plus proche de son expérience immédiate, quotidienne, etc. Ça me semble quelque chose de vraiment important. Et je me rappelle d'ailleurs, fortuitement, une expérience qui n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais c'est Jean-Claude Croisé qui en avait parlé, qui est un de vos collègues psychologues, sur l'importance, y compris de dire aux élèves parfois la difficulté de la tâche qui les attend, et le fait de leur dire la difficulté de cette tâche facilite souvent beaucoup plus l'entrée dans l'apprentissage que de leur cacher, de leur dire non, ça va être facile, tu vas voir, et au contraire, là, d'avoir des élèves qui, quand ils rencontrent les premiers efforts, se découragent parce qu'ils sont persuadés que ça va être facile, alors qu'en fait, il y a une difficulté.